Demoiselle Midi, l'info d'ici.
Bonjour à tous. Les retraités dans la rue le 6 novembre dans le département à l'appel d'une intersyndicale. Les retraités passent à l'action avec une journée de mobilisation dans trois villes du département, Rochefort, Saintes et La Rochelle. Ils se mobilisent alors que les discussions sur le budget de la sécurité sociale se déroulent en ce moment à l'Assemblée nationale. Les organisations syndicales dénoncent un acharnement contre les retraités et demandent une abrogation pure et simple de la réforme des retraites. Le rendez-vous est donné à 10h30 à Rochefort, place de Verdun, à Saintes devant le palais de justice et enfin à 14h30 à La Rochelle, place de Verdun. Monseigneur Bozo, officiellement installé comme évêque dans le diocèse de La Rochelle. Il est plus exactement évêque coadjuteur, c'est-à-dire qu'il est en première place pour succéder à Monseigneur Colomb, l'évêque actuel. Ce dernier est mis en retrait en raison d'accusations de viol le concernant. Monseigneur Bozo prend donc les rênes du diocèse dans l'attente d'un jugement dans cette affaire après 2 ans sans évêque. Monseigneur Bozo.
2 ans qu'il n'y a pas d'évêque sur place à La Rochelle, puisqu'il est administré le diocèse depuis 2 ans par Monseigneur Jacolin, qui est l'évêque de Luçon, et puis Monseigneur Colomb, qui est l'évêque titulaire, est en retrait à cause d'une procédure judiciaire qui le concerne. Et donc d'abord les gens ont un peu de mal à se repérer parce que c'est une situation un peu compliquée objectivement, et puis parce qu'il n'y a plus de pasteur sur place. Et donc j'arrive dans cette situation où il y a en effet un appel d'air, je pense, mais où probablement les catholiques ont un peu souffert de la situation. Ma mission, ça va être d'être sur le terrain, voilà, d'arpenter le terrain dans tous les sens, et d'abord d'aller voir les prêtres, qui sont les premiers collaborateurs de l'évêque, et d'aller les rencontrer chez eux, dans leur presbytère, sur le terrain là où ils habitent, et puis les communautés chrétiennes. Donc les premiers dimanches là, de novembre, tous les premiers dimanches de ma mission ici, j'irai célébrer les messes dans ce qu'on appelle les doyennés, qui sont un peu comme les chefs-lieux de canton des paroisses, pour rassembler et retrouver le maximum de chrétiens catholiques.
Monseigneur Bozo est conscient du contexte difficile dans lequel il arrive. Il a tout de même souhaité rappeler que les actes de violence sexuelle concernaient une minorité de prêtres, soit 2% d'entre eux. Monseigneur Bozo.
On a parlé beaucoup à partir du rapport de la CIAZ, hein, qui était un acte très, très important de la conférence des évêques de France pour faire la pleine lumière avec une commission indépendante, hein, sur les abus sexuels dans l'Église. C'est ça que signifie la CIAZ, et qui a montré que, de fait, à partir du moment où on en parle, beaucoup de langues se délient, et on s'est aperçu qu'il y a eu beaucoup de dégâts et beaucoup de personnes victimes très, très abîmées par tout cela. Donc l'Église essaie d'en prendre soin aujourd'hui, plus qu'elle ne l'a fait à une époque. C'est un mouvement culturel général, vous savez, c'est pas propre à l'Église, on le voit bien dans tous les domaines, dans tous les milieux, on se voit qu'il y a eu des abus et qu'aujourd'hui, il faut en parler. Mais du coup, comme on en parle, ça prend beaucoup, beaucoup d'importance dans l'actualité, et c'est une manière d'honorer la souffrance des victimes, mais ça ne rend pas justice au fait que c'est une petite partie seulement de prêtres, en l'occurrence, qui ont été des abuseurs. L'immense majorité des prêtres, 98% ou 97%, ont une vie de fidélité à l'Évangile autant que la faiblesse humaine le permet. Voilà. Et donc, il faut pas que ça donne l'impression que voilà, l'Église est un repère de pédophiles ou de voilà. Je crois que c'est important de remettre ce chiffre en tête pour ne pas exagérer la situation.
Le diocèse de La Rochelle compte 46 paroisses pour 99 prêtres et 37 diacres. La guerre aux chenilles processionnaires est déclarée sur l'île d'Oléron. La communauté de communes lance sa campagne 2025 de lutte contre cette larve de papillon devenue chenille urticante. Pour l'homme, elle peut être mortelle pour les animaux de compagnie. Si ils ne sont pas pris en charge à temps, elle loge dans les pins en été pour en descendre à l'automne et l'hiver. Pour encourager la lutte contre cette espèce, la collectivité propose la vente de 2 dispositifs. Un éco-piège, c'est une collerette à poser autour du tronc de l'arbre. Elle capture les chenilles avant qu'elles n'atteignent le sol. L'autre est un piège à phéromones. Il capture les papillons mâles du mois de mai au mois d'août. Leur vente se fait à un tarif préférentiel. 80% du prix est pris en charge par la collectivité. Et les ventes se déroulent au 111 route du Douai à Labré-les-Bains. Vous avez jusqu'à vendredi pour les récupérer. Et ça se passe de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h. La semaine de l'enfance, une première en Charente-Maritime. Elle se déroule du 3 au 7 novembre dans tout le département, avec des ateliers organisés par la PMI, Protection maternelle et infantile, des ateliers pour prendre soin de son bébé, prévenir les violences conjugales ou encore éveiller les tout-petits à la lecture. 2 journées sont aussi organisées à la maison de la Charente-Maritime, dont une le 5 novembre consacrée aux enfants pris en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Marie-Christine Bureau, conseillère départementale en charge de la petite enfance.
Alors c'est le premier forum de l'enfance qui s'adresse en fait aux enfants de l'ASE, c'est-à-dire les enfants qui sont accompagnés actuellement par l'aide sociale à l'enfance ou qui l'ont été. Et on cible plutôt les 17-25 ans parce qu'en fait, on aura pour ce forum 25 partenaires à peu près hein, qui seront présents et qui touchent aussi bien le domaine de la scolarité que de l'insertion, de la santé, du logement, ou qui seront là pour répondre, par exemple comme la CAF, la NDSA, pour répondre aux problématiques que les jeunes peuvent avoir à traiter. Ils n'ont pas forcément le bon fil conducteur hein, pour savoir comment se débrouiller.
Les dépenses d'aide sociale sont les principales du département. Elle y consacre 61% de son budget, soit 470 millions, dont 120 pour l'aide sociale à l'enfance, un budget important et en augmentation malgré les efforts demandés par le gouvernement, mais toujours insuffisant, selon Marie-Christine Bureau.
C'est un budget qui est en constante évolution parce que on a eu, une évolution des besoins, hein, une augmentation croissante des enfants, et puis de nouvelles exigences aussi avec les augmentations salariales, le Ségur de la santé, toutes les personnes du médico-social qui n'étaient pas prises en charge par l'État et qu'on a dû prendre en charge. Enfin voilà, je vais vous dire que même si c'est, moi je ne vais pas me plaindre parce que c'est un budget qui, contrairement aux autres dans le département, enfin aux autres budgets du département, est en hausse. Mais les besoins sont tellement prégnants que c'est pas encore assez, quoi.
En Charente-Maritime, 2450 enfants ont été confiés au département en 2025, dont 440 mineurs non accompagnés. Midi 12 sur Demoiselle, retour de l'information après la pub.
Demoiselle Midi, l'info d'ici.
À Saintes, l'éclairage public s'adapte à la demande des citoyens. De nouvelles rues vont désormais être éclairées. Au total, 15 axes vont être éclairés le soir. Il s'agit de deux chemins, celui de la Prairie et celui des Ronces, de 11 rues Sainte-Trope vers l'hôpital Saint-Vivien, Daniel Massieu, celle de Santonne dans la zone de la Fenêtre, mais aussi Frédéric Mestreau dans la zone de la Gare, celle de Taillebourg, ainsi qu'Épineuil, rue de Provence, rue de Saint-Sorlin et rue des Flandres dans la zone du Grand Coudray sont concernées. À ces 11 rues et deux chemins s'ajoutent le boulevard Guillet-Maillet et l'avenue Jean Monnet dans la zone de la Recluse. De nouveaux axes et aussi du temps d'éclairage en plus. Les explications de Joël Thérien, adjoint au maire en charge de l'urbanisme.
On a tenu compte des remontées citoyennes du Conseil local pour la transition écologique et il s'est avéré qu'il y avait certaines zones piétonnières, plus particulièrement utilisées par les piétons et les cyclistes, qui demandaient à être un peu plus avoir un éclairage plus régulier. Donc notamment, on a réfléchi à comment on pourrait réadapter, faire évoluer un petit peu cette extinction qu'on avait mis en place. Ce qui va changer, c'est que en période d'hiver, on va allonger l'éclairage de 30 minutes le soir. L'éclairage s'éteindra à 22h30 au lieu de s'éteindre à 22h. Et l'été, il s'éteindra à minuit au lieu de 23h actuellement. D'une façon générale, ça c'est sur l'ensemble des zones qui étaient aujourd'hui concernées.
La décision d'éteindre la majorité des lampadaires est survenue après la crise de 2022 et l'augmentation des coûts de l'énergie. 3 ans après, la mesure semble être acceptée par les habitants et permet à la ville des économies non négligeables. Joël Thérien.
Si on regarde la globalité des démarches qu'on a entreprises, la réduction de l'éclairage depuis 2022 a permis d'économiser 180 000 euros. On change aussi toutes les lampes aujourd'hui. On a engagé un programme de lampes, de changement des lampes en LED. Donc ça aussi, ça a engendré 176 240 euros exactement. Et puis ensuite, sur certaines axes comme Olympia et National, on avait éteint un lampadaire sur deux. Enfin, il y avait les lampadaires qui éclairent la rue, puis les lampadaires qui éclairent le trottoir. Et on s'est aperçu en testant qu'en éteignant les lampadaires qui éclairent le trottoir, ça n'avait pas trop d'impact. Donc on a procédé à l'extinction d'un certain nombre de lampadaires côté trottoir. Tout ça cumulé, ça fait à peu près 488 000 euros d'économies faites chaque année. Donc, c'est une bonne chose, puisque ça a été une période quand même un peu difficile. Maintenant, ça va un petit peu mieux, mais enfin, c'est quand même pas revenu quand même au prix qu'on avait avant le Covid. Donc on peut se permettre de réajuster un petit peu selon ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, mais on peut pas tout rallumer systématiquement parce que on va retomber encore dans des coûts, dans des dépenses au-delà du possible.
La ville se lance également dans la mise en place d'une trame noire autour de la Charente. C'est un espace où l'éclairage public est réduit à son minimum afin de préserver la biodiversité. On passe maintenant aux nouvelles du ciel.
Demoiselle, la météo.
Pierre, de la grisaille, de la pluie, qu'est-ce qui se passe cet après-midi ?
Adrien, c'est exactement ça. C'est exactement le programme de cet après-midi, avec donc pas mal de pluie hein. Jusqu'en début de soirée. On aura même du vent qui va souffler un peu plus fort, atteignant par endroits les 50 km/h. Au niveau des températures, eh bien, ça reste toujours assez doux hein. On aura 14 degrés du côté de Saintes ou Saint-Jean-d'Angély et 17 degrés attendus du côté de Rochefort, La Rochelle et sur les îles. Pour demain, ça s'annonce toujours assez gris, notamment le matin, et un ciel plutôt voilé l'après-midi. Et pour vendredi, eh bien, on va finir la semaine nuageuse, hein, simplement.
Aujourd'hui, vous êtes ici.
Mais demain, vous n'êtes pas là.
Avec l'application Demoiselle, écoutez ce qui se passe ici.
Lorsque vous êtes ailleurs.
Musique, infos, podcast, direct.
Retrouvez toute la radio d'ici en téléchargeant gratuitement votre application sur Google Play.
Ou sur Apple Store.
Avec l'application Demoiselle, restez branchés à la radio d'ici.
Même si vous partez en vacances à Bora Bora.